Et alors donc, je vous présentais Nathanaël Rich, qui est donc dans ce studio, qui est journaliste au New York Times, et que je salue. Et ce garçon, je l'ai rencontré par texte interposé en août 2018, parce que figurez-vous, Camille, que le New York Times a donc un supplément dominical. Ce supplément, il fait environ 65 pages. Et donc, le 1er août 2018, eh bien, ce supplément était uniquement composé d'un seul article, un article signé par Nathanaël Rich, consacré au réchauffement climatique, avec une thèse absolument surprenante, car cet article disait en substance qu'en 1979, on savait déjà tout. Alors maintenant, cet article a été jugé suffisamment important pour qu'il devienne un livre, avec des pages en plus, mais il raconte la même histoire, avec plus de détails qu'auparavant. Il s'appelle Perdre la Terre, il est publié en France aux éditions du Seuil. C'est une enquête particulièrement fouillée. Et Nathanaël Rich, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que l'on savait en 1979? Pourquoi cette histoire du réchauffement climatique est finalement une vieille histoire, je veux dire sur le plan scientifique, bien entendu?
Yes, thank you for having me here.
Tout d'abord, merci de me recevoir ici.
There's no conversation that we're having today.
Il n'y a pas de débat que l'on ait aujourd'hui au sujet du changement climatique sur le plan scientifique, mais sur le plan des questions sociales qui sont soulevées, que nous n'ayons pas eu déjà en 1979. Je voulais raconter l'histoire dont la façon dont les premiers efforts se sont fait jour pour transformer les preuves scientifiques en politique, en action politique.
Eh bien, on part de
1979, 10 ans plus tard, 1989. C'est la naissance de l'activisme, du militantisme en faveur du climat. Et c'est une histoire assez triomphante, ou alors que quelques personnes de Washington ont réussi à faire passer cela dans la presse en faveur d'une solution. Et puis finalement, à la fin de la décennie, les États-Unis se sont retirés des processus internationaux. Donc c'est une histoire triste pour notre histoire en général.
Comment avez-vous découvert qu'en 1979, la notion de réchauffement climatique était déjà connue? Parce que là aussi, ce qui est très étonnant dans votre enquête, c'est qu'on s'aperçoit, Nathanaël Rich, qu'il y a quelque chose qui est quasiment lié au hasard dans cette découverte.
A history that's been totally forgotten.
Oui, c'est une histoire qui a été totalement oubliée au cours des années. Mais ce n'était pas un secret.
There was coverage on the front page of the New York Times.
Il y avait des couvertures de cet événement dans le New York Times en 1979. Le réchauffement, il y avait un consensus scientifique, pas seulement au sein de la communauté scientifique, mais aussi au niveau les plus élevés du gouvernement américain et par l'industrie du pétrole aussi. Et il y a eu un effort sérieux tout au cours de cette décennie-là avec un soutien des deux côtés de l'échiquier politique pour tenter de développer et de trouver des solutions. Cette idée que la science est incertaine ou que notre compréhension de la chose est un développement récent et le produit de cette campagne qui a été lancée par l'industrie pétrolière avec le soutien enthousiaste du Parti républicain depuis 1990 principalement.
Comment alors cela a été découvert par un fonctionnaire? Comment sur le plan politique le réchauffement climatique a été découvert? Parce que il y a l'aspect scientifique des choses et puis il y a l'aspect gouvernemental. Et là, vous racontez comment un fonctionnaire dans Perdre la Terre, Nathanaël Rich, vous racontez comment ce fonctionnaire a découvert quasiment de manière inopinée cet état de fait.
Yeah, the story begins with
l'histoire commence avec Raf Pomerantz, un jeune militant dans une ONG qui lisait un très obscur rapport gouvernemental, et il réagit de la façon dont nous tous réagissons quand on en vient avec cet aspect de la situation. Il est d'abord dans le déni total. Il n'y croit pas.
Known, then surely somebody,
et il se dit que si c'est su, si c'est connu, quelqu'un au pouvoir s'en occupe. Et puis il se rend compte que personne ne s'en occupe. Et donc, il essaye lui-même d'alerter tout le monde au sein de l'establishment de ce qui est en train de se produire. Et c'est le début de son effort. Mais c'est un personnage fascinant parce que il réagit d'une manière qui semble très instinctive. Il essaye de monter sur les toits et de hurler simplement pour alerter les pouvoirs qu'ils doivent agir. Et il se rend compte que, très très tôt, que ça ne suffit pas ce qu'il fait.
Et alors comment justement ce discours sur le réchauffement climatique va-t-il se diffuser dans la société? Puisque vous racontez, Nathaniel Rich, qu'il y a à l'époque, parmi les Américains, une prise de conscience, que on en parle dans les émissions de télévision, bref, que ça n'est pas du tout un secret ou quelque chose qui est réservé à un petit nombre de scientifiques.
Yeah, it's during the course of this period, it became
a major national issue. C'est devenu un problème national important. Il y a eu, c'était surtout tout d'abord par des auditions devant le Congrès des États-Unis, et à la fin de la décennie, lorsque James Hansen, un scientifique de la NASA, s'est présenté devant le Congrès au cours de l'été le plus chaud de l'ère humaine, a dit qu'il a déclaré que le réchauffement climatique était là, et bien c'est devenu un sujet national et le sujet de lois qui ont été passées au Congrès avec un soutien des deux côtés de l'échiquier.
Alors par exemple le magazine People, qui est un magazine extrêmement populaire aux États-Unis, avait en 1979 un homme, Gordon MacDonald, juché sur les marches du Capitole de Washington. Il levait les bras bien haut au-dessus de sa tête pour montrer quel sera le niveau de la mer en 2030, si ses théories sont exactes. À l'époque, est-ce que c'était un homme qu'on montrait comme étant une sorte de marginal illuminé, ou bien est-ce qu'on considérait que cet homme qui prévoyait le pire était dans le vrai?
He was one of the most respected scientists.
C'était un des scientifiques les plus respectés par le gouvernement américain. C'était le scientifique en chef pour la CIA. Et au début de la décennie, il y a ce couple bizarre entre Gordon MacDonald, qui était au centre du complexe militaro-industriel, qui était très inquiet du problème, rejoignant ce jeune militant de la cause climatique, Ralph Pomerantz. Et tous les deux menaient cet effort d'avertir tout le monde. Sa statue en tant que scientifique et les liens de Pomerantz sur Capitol Hill, ils ont travaillé ensemble. Ça aurait pu même être comique si ce n'était pas une tragédie.
Bon, alors donc cette découverte, la découverte qu'on avait découvert tout ça en 1979 est déjà très étonnante. Mais alors, vous allez encore plus loin. Vous dites que dès le début des années 60, quelques initiés travaillant pour la Maison Blanche n'ignoraient rien, par exemple, des conséquences que pouvait avoir sur l'atmosphère le trop plein d'émissions de gaz carbonique, et que la notion d'effet de serre était quelque chose d'absolument connu, Nathaniel Rich.
Ouais, il est important de comprendre que la science fondamentale du changement climatique, l'idée qu'en faisant brûler les énergies fossiles, on accroissait la température de la planète, cette compréhension remonte au 19e siècle. On parle d'un consensus scientifique en 1979 parce qu'on avait une compréhension extrêmement précise de ce qui se passerait du réchauffement climatique et quand. Si on parle à des scientifiques du climat aujourd'hui, ils vont vous dire qu'il n'y a aucune découverte essentielle depuis 1979. On a simplement des données plus précises. qu'à l'époque. On a plus d'informations, mais la compréhension fondamentale n'a pas changé.
Et alors, est-ce que les différences entre démocrates et républicains, parce que aujourd'hui, les climato-sceptiques sont principalement des républicains, est-ce qu'à l'époque, cette distinction était aussi marquée qu'aujourd'hui, Nathaniel Rich?
Mais ça semble être un conte de fées si on revient à cette époque-là, où il y avait un grand segment, une grande partie des partis républicains américains qui se considéraient comme des écolos. Et la plupart des lois qui ont été prises sur le changement climatique ont été poussées par les républicains. Et ce segment du parti républicain n'existe plus, c'est un parti différent. Un parti qui non seulement questionne le changement climatique, mais en question le changement climatique, mais avec un scepticisme fondamental au sujet de la méthode scientifique.
Et alors justement, ce que vous racontez dans Perdre la Terre, cette histoire surprenante, Nathaniel Rich, ça n'est pas la découverte de l'effet de serre ou du réchauffement climatique, ce sont les raisons finalement pour lesquelles on a oublié cette histoire, puisque vous dites qu'en 1979 on savait, et en 2018, d'après un sondage, seuls 42% des membres du parti républicain estiment que le réchauffement climatique est en cours, ce qui veut dire que c'est une vérité qui a été oubliée. Alors, elle a été oubliée pourquoi ? Elle a été oubliée tout d'abord parce que vous nous dites, et cela n'est pas une surprise, que un certain nombre d'industriels n'avaient absolument pas intérêt à ce que cette nouvelle se répande, et vous incriminez notamment les pétroliers, par exemple ExxonMobil. Quel a été leur rôle, Nathaniel Rich ?
L'industrie suivait ce problème. Tout comme le gouvernement américain, depuis les années 50 et pendant cette décennie, ils ont lancé des efforts importants pour non seulement comprendre la situation et l'état de la science, mais aussi pour se rendre compte de quelle politique pourrait être menée et comment ils pourraient y réagir. Et à la fin de la décennie, lorsqu'on a les premiers efforts pour négocier un traité mondial, pour voter des lois, l'industrie commence à développer une stratégie sur la façon de lutter contre les réglementations principales. Ça commence de façon très douce, avec un effort pour s'assurer que aucune politique n'ira au-delà des découvertes scientifiques, par exemple. Et comme je le raconte pour la première fois, d'ailleurs, dans ce livre, les créateurs de cette stratégie m'ont parlé. Ils m'ont expliqué comment les réussites de l'aspect de les relations publiques de cette stratégie pour semer le doute dans l'esprit des gens et comment c'est allé au-delà de leurs espérances. Et nous sommes les victimes de leur succès. Et c'était vraiment la concentration de toute l'industrie pétrolière pour semer le doute dans l'esprit des gens.
Alors là, je pense que c'est l'une des parties les plus passionnantes de votre livre, Nathaniel Rich, ce livre qui est traduit aujourd'hui au Seuil sous le titre « Perdre la Terre ». Parce que ce que vous expliquez, finalement, c'est que pour nier le réchauffement climatique, eh bien, les pétroliers, disons le lobby industriel, mais aussi les politiques, on va le voir dans quelques instants, n'ont pas du tout dit que c'était faux. C'est pas du tout ça la bonne méthode, la bonne rhétorique. Pour nier le réchauffement climatique, on a dit que c'était plus compliqué que cela. Et finalement, on a utilisé une arme, qui est une arme particulièrement redoutable, qui est le confusionnisme, l'idée qu'il faut finalement introduire toute une série de variables pour que les gens n'y comprennent plus rien. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Tout d'abord, ça commence par un effort pour suggérer qu'il y a des incertitudes dans les marges de la recherche scientifique. Et aussi pour s'assurer qu'aucune politique, aucune décision politique qui soit votée ne soit considérée comme inévitable. Et que ce n'était pas trop, si vous voulez, punitif d'une certaine façon. Dès qu'il y a eu quelques scientifiques de l'industrie qui ont commencé à parler aux médias et avancer ces arguments qui ont été avalés par les médias américains, et ça ne donnait le son que d'un seul côté. Et donc face à cette crainte, il y avait deux réponses. Et pour la première fois, à la fin de 1989, des grands articles dans la presse nationale sont apparus, suggérant que peut-être que la science était plus compliquée que ça. Et ça a été une telle réussite que les lobbyistes ont continué à pousser selon cette ligne. Et en fait, de façon de plus en plus culottée, ils sont passés vers non seulement mettre l'accent sur les incertitudes devant l'épreuve de la science, mais en soutenant que toute la science fondamentale, remontant un siècle en arrière, était elle aussi incertaine. Et maintenant, il y a cette nouvelle réalité folle que le Parti républicain, endossant maintenant une position qui est encore plus à la droite de ce qu'elle était autrefois, beaucoup plus à la droite que l'industrie du pétrole, eh bien, le dit ouvertement.
Mais alors, dans ces conditions, on se demande, Nathaniel Rich, si les climato-sceptiques ont été les idiots utiles de l'industrie, des lobbies industriels dont vous témoignez de l'action pour tenter de brouiller les cartes. Est-ce que ces climato-sceptiques étaient réellement convaincus de ce qu'ils racontaient, ou bien étaient-ils tout simplement des relais, finalement, dans l'opinion, des mensonges qui étaient utilisés et déployés par l'industrie?
C'est une question morale, en quelque sorte. À quel point sont-ils coupables? Je ne pense pas que la plupart ou tous les républicains qui parlent de ce problème croient sincèrement que la science n'est pas exacte. Le mieux que l'on puisse dire pour leur défense, c'est que ce sont des ignares, mais pour leur plus grande partie, non. C'est de la prévarication. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a un de ces personnages qui est dans l'administration Bush, John Sununu, le directeur de cabinet, qui était le principal individu à nier la réalité. Et il a pu arrêter ce processus de lutte contre le changement climatique. Et sa vision a prévalu.
Nathaniel Rich, journaliste au New York Times, vous publiez « Perdre la Terre », traduit de l'anglais par David Fauquembert, tandis que vous étiez traduit ici par Maître Zlotowski. On vous retrouve dans quelques instants. On va parler cette fois-ci de l'aspect politique des choses, puisque, bien entendu, ces mensonges ont été également largement relayés par toute une série de politiciens qui étaient des politiciens très largement mal intentionnés. Et puis, vous serez rejoint par Alain Grandjean de la Fondation Nicolas Hulot, et on verra cette fois-ci sur le plan français comment la question du réchauffement climatique s'est posée, comment elle se pose. 8h sur France Culture, très bon réveil à tous. On va continuer à vous raconter cette histoire incroyable, une histoire incroyable qui est arrivée aux États-Unis, puisque c'est un journaliste du New York Times qui nous la raconte. Il s'appelle Nathaniel Rich et son livre « Perdre la Terre, une histoire de notre temps » est traduit aux éditions du Seuil. Il raconte finalement comment, en 1979, on savait à peu près tout sur le réchauffement climatique et comment finalement, suite à un effort concerté de certains industriels, les pétroliers par exemple, et aussi des politiciens, notamment de Ronald Reagan, eh bien ce réchauffement climatique, d'une évidence attestée par des scientifiques, est devenu quelque chose de compliqué, de pas évident et finalement oublié aujourd'hui par les républicains. Pour en discuter, nous sommes également en compagnie d'Alain Grandjean que j'accueille. Bonjour Alain Grandjean, vous dirigez la Fondation Nicolas Hulot, vous publiez « Agir sans attendre, notre plan pour le climat » aux éditions des Liens qui libèrent. Et avant d'évoquer ça, je vous ai vu, Nathaniel Rich, vous êtes américain, réagir lorsque, durant les informations, Clara Lecoq-Réal évoquait l'interdiction de fait de l'avortement dans l'État de l'Alabama. Peut-être un mot là-dessus avant de parler du réchauffement climatique.
Nous sommes entrés dans une époque extrêmement dangereuse aux États-Unis, dangereuse pour notre pays. Tous les droits fondamentaux que nous prenions pour acquis sont mis à l'épreuve. Le sujet de l'avortement, eh bien, c'est un contraste frappant avec le problème du climat. Je pense que les républicains, les électeurs républicains, pour lesquels le sujet de l'avortement est vraiment un point fondamental pour la raison pour laquelle ils sont républicains, je ne pense pas que ce soit la même chose pour le sujet du climat, du changement du climat. Même si l'establishment du Parti républicain est en faveur du déni de la réalité du changement climatique, ça fait partie de sa plateforme politique d'ailleurs, je ne pense pas que les électeurs ont le même attachement émotionnel à cette question. Donc mon espoir que ça puisse changer comme issue politique, et ce sera plus facilement faisable qu'en ce qui concerne l'avortement.
Alors vous racontez dans Perdre la Terre cette histoire, l'histoire finalement de la victoire des climato-sceptiques, puisque ce sont eux aujourd'hui qui gouvernent l'Amérique. Alain Grandjean, vous êtes président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, vous êtes polytechnicien, docteur en économie et vous êtes un spécialiste reconnu des questions environnementales. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Est-ce qu'en 1979 on savait? Est-ce que depuis les années 80 on a assisté en quelque sorte à une tentative de nier l'évidence?
Non, c'est très différent le cas français. Dans les années 80, moi j'étais dans un laboratoire de recherche à l'école polytechnique, on parlait très très peu du climat. On parlait beaucoup des pollutions, on parlait beaucoup de plein d'autres problèmes, mais la question climatique n'était pas sur l'agenda. Elle est vraiment arrivée sur l'agenda au début des années 2000, évidemment très massivement avec le pacte écologique qui a précédé l'élection présidentielle de Sarkozy. Et à ce moment-là, il y a eu un basculement qui est assez profond, je pense, qui est que le monde des affaires en France a plutôt compris, grâce au Grenelle de l'environnement, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions entre les ONG, le patronat et les partenaires sociaux, tous ces gens-là ont compris que c'était un vrai sujet. Il y a eu une petite contre-révolution, si je peux me permettre, après Copenhague, où Claude Allègre a emmené un point de vue climato-sceptique sous l'idée qu'il était scientifique, alors qu'il n'était pas du tout spécialiste de la question du climat. Et en 2015, au moment de l'accord de Paris, on a eu une réaffirmation très très forte des questions climatiques. Donc aujourd'hui, notre point n'est pas, en France, n'est plus tellement la question du débat climato-sceptique contre non-climato-sceptique, c'est plutôt l'attentisme, et c'est pour ça qu'on a écrit un livre sur le thème. On n'a pas besoin de tergiverser, on sait tout, et on a les moyens, on sait qu'on peut y arriver pour pas si cher que ça. Allons-y.
Alors, justement, c'est ça la différence entre les États-Unis et la France. Dans le livre de Nathaniel Rich, il est question de beaucoup de climato-sceptiques et ces gens-là sont extrêmement équipés, ils ont de l'argent, ils ont des relais médiatiques. En France, finalement, on cite très souvent Claude Allègre, et on cite Vincent Courtillot qui a eu également un rôle dans la négation du réchauffement climatique et on n'en voit pas beaucoup d'autres parce qu'on les a oubliés. Parce que
j'ai l'impression que j'ai, c'est que l'organisation aux États-Unis qui consiste à ce que les lobbies financent massivement des think tanks est très spécifique aux États-Unis. En tous les cas, c'est pas comme ça que ça marche en France. Donc la fabrique du doute, qui a été mise en évidence par Naomi Oreskes et qui a été illustrée par l'industrie du tabac, où on voit aussi dans le secteur des pesticides.
La fabrique du doute, je le rappelle parce que c'est encore une fois quelque chose d'important, ça consiste à dire que c'est plus compliqué que ça.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas d'affronter, d'ailleurs c'est très bien expliqué par Nathaniel Rich, c'est pas d'affronter frontalement la thèse adverse, mais c'est de créer de la confusion dans les esprits. Alors c'est évidemment très important dans l'affaire climatique, parce que moi je suis très convaincu, comme beaucoup d'autres, qu'il est question de mettre en œuvre une mobilisation générale rapide, parce que le tic-tac est extrêmement serré, l'horloge tourne à toute vitesse, on a pris 30 ans de retard, comme ça a été démontré par Nathaniel Rich, et donc la mobilisation, elle n'est pas possible s'il y a des doutes partout, parce que les gens se disent « ah bah oui, on me dit ça, mais peut-être autre chose », donc c'est une bonne stratégie de ralentissement.
Mais alors, justement, moi, je vais introduire un doute de plus. Alain Grandjean, comme on a le droit d'être malicieux, malheureusement, avec tous les intérêts qui sont en jeu, on se dit que le réchauffement climatique, il intéresse une catégorie d'industriels, ce sont les industriels du nucléaire. Est-ce que leur poids en France pourrait expliquer que le réchauffement climatique ait été considéré comme étant plus une évidence qu'aux États-Unis, où sont les pétroliers qui ont le pouvoir?
Je ne crois pas que ce soit tout à fait suffisant pour expliquer les choses, parce qu'en fait, tous les secteurs d'activité sont intéressés par la solution au changement climatique.
Il faut les pétroliers, pas tellement.
Presque tous. Le secteur énergie, il y a des énergies renouvelables qui sont très intéressées positivement au changement climatique. Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, il y a beaucoup d'intérêt à lutter contre le changement climatique. Dans le domaine du transport, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, je pense que c'est plus compliqué que ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nathaniel Rich? Parce que vous vous racontez finalement comment les politiciens, et Reagan a eu un rôle extrêmement important à cet égard, puisque donc vous dites qu'en 1979, on sait. Ensuite, c'est Reagan, et Reagan va se débrouiller pour qu'on ne sache plus. Bush et ensuite va prendre la suite, et Donald Trump, on le sait, est sur cette même ligne. Comment cela s'est déroulé?
Well... The tragedy of the story is
eh bien, le tragique de l'histoire, c'est qu'avant cet effort majeur de l'industrie pétrolière qui n'entre pas en jeu avant les années 80, il y avait quelques reculs certainement avec Reagan, mais il y avait aussi George Bush le père qui faisait campagne pour la présidence promettant de résoudre le problème. Donc la tragédie, c'est que même avant, il y avait quelqu'un contre, un antagoniste, et on se battait simplement seul. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a échoué même si on avait rien contre ou personne contre qui se battre? Ça soulève des questions très difficiles sur notre capacité à véritablement se colter avec cette question au long terme. Et c'est une question que l'on se pose encore aujourd'hui. On peut pénaliser l'industrie pétrolière autant qu'on veut, mais il faudra toujours résoudre le problème du changement climatique.
Les relais chez les Républicains, ils ont été organisés, c'est ce que vous expliquez. Alors vous l'expliquez notamment au travers de la réaction d'ExxonMobil, parce que le poids des pétroliers aux États-Unis explique une bonne partie de ce scepticisme parfaitement intéressé à l'égard de la thèse du réchauffement climatique, Nathaniel Rich.
Oui, l'histoire dominante depuis 89, c'est l'industrie qui l'a joué. Mais ce que l'histoire révèle aussi, c'est qu'il y a une limite à laquelle les arguments rationnels vont vous mener. Il ne suffit pas de dire « c'est stupide de ne pas agir ». Mais ça nous amène seulement à un certain point. Il faut un argument plus fort. Il faut un argument moral disant que si nous n'agissons pas, eh bien, non seulement nous sommes stupides, mais nous torpillons les valeurs fondamentales qui sont les nôtres, notre société. Et c'est seulement dans les dernières années que ces arguments ont été mis en avant aux États-Unis.
Et alors, en France, Alain Grandjean, les arguments, parce que aujourd'hui, on a l'impression, à la faveur de cette campagne pour l'élection européenne, que tout le monde est écologiste, on peut dire ça.
Il y a un progrès dans la prise en considération des plans d'action qu'il faut mener pour faire face au changement climatique. Il y a un progrès aussi en termes de communication, parce qu'on a une difficulté avec le catastrophisme. Il est important de dire que si on ne fait rien, c'est notre civilisation qui est en jeu. Mais si on en dit trop sur ce terrain-là, ça fait peur à tout le monde.
Pourquoi ?
Parce que ça panique.
C'est parce que pensent les collapsologues, ceux qui pensent que les fonds...
Il y a un effet psychologique qui est que ça ne donne pas d'attention de cerveau, de disponibilité de cerveau sur les solutions. Parce qu'on se polarise sur la catastrophe, voire on essaye de commencer à s'y adapter. Donc je pense qu'en France, maintenant, le sujet principal, c'est de redonner de la vigueur à tous les plans d'action qui sont positifs et qui vont réussir à nous sortir de ce bourbier.
Alors, il y a un autre levier qui peut servir l'inaction, c'est le fait que la France pèse peu, pèserait peu dans cette catastrophe mondiale.
C'est ce que nous essayons de démontrer dans le livre. Nous essayons de dire que la France agit, emmène des coalitions au niveau européen, et l'Europe, elle n'est pas anecdotique. C'est un gros marché. Et par ailleurs, la Chine est aussi très active sur ce flanc-là.
Mais alors, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas aux États-Unis, Nathaniel Rich? Parce que là aussi, vous révélez des chiffres troublants. Vous dites que l'opinion publique était largement favorable à une action urgente, je dis bien urgente, aux États-Unis en 1988. 68% des Américains connaissaient l'existence de l'effet de serre et un tiers se disait très inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Oui,
il est important de reconnaître qu'il ne s'agit pas, ça ne suffit pas que tout le monde soit d'accord pour agir. Ça devrait être la première des priorités. Et ce débat, cette conversation sur la question, est-ce qu'il faut instiller la peur ou l'espoir, ça a été un débat très important dans ce mouvement aux États-Unis. Et mon sentiment, c'est que c'est un problème compliqué avec des solutions compliquées. Et il faudrait pouvoir en parler en adulte. Ça veut dire reconnaître le scénario du pire et aussi reconnaître qu'il y a des choses positives qui se produisent. Et aux États-Unis, le niveau du débat a été vraiment transformé à un niveau infantile, puéril. Par les gens qui sont en faveur du déni. Mais on en parle aux États-Unis comme si c'était un film de super-héros. On gagne ou alors on perd complètement. Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir ou est-ce qu'il faut être dans la crainte? Ça me semble un état très immature de du débat et ce n'est pas de la façon dont on parle des autres problèmes sociaux de notre temps.
Mais enfin ça, ce n'est pas venu non plus de nulle part puisque vous racontez comment l'industrie du pétrole, du charbon dépensait plusieurs milliards de dollars pour saper l'idée du réchauffement climatique. Ça, c'est dans les années 80 seulement.
Oui, c'est une stratégie qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Continuer à insister sur le fait que la science est vraie et réelle, ce qui a été le but des militants. En fait, on se bat contre des gens qui sont de mauvaise foi. C'est pas une utilisation utile de notre temps. Ce qui était absorbé par cette nouvelle vague d'activisme, de militance, des jeunes, c'est qu'ils n'ont plus cette discussion, ils n'ont plus ce genre de débat. Ils mettent l'accent non pas sur la science, mais sur le besoin urgent de la compréhension du problème en tant que problème de justice extrêmement important.
Mais alors, justement, parce que Nathaniel Rich a publié au début cette enquête dans le New York Times, mais hier dans Le Monde, il y avait un article absolument étonnant, Alain Grandjean, sur la responsabilité de Renault dans le Dieselgate, le scandale lié au moteur diesel, où le journal Le Monde expliquait comment il y avait de fortes présomptions, j'utilise un conditionnel de circonstances, pour expliquer comment les moteurs Renault avaient été truqués pour diminuer les effets de ce qu'on appelle des pièges anox, le gaz toxique qui est émis par les moteurs diesel, et notamment pour rendre inopérants ces pièges anox en dessous de 50 km/h, soit la vitesse qu'on utilise en ville, soit le lieu où les moteurs diesel sont particulièrement polluants. Et on se dit que cela s'est fait dans la plus complète impunité, parce que si on se souvient, lorsque le scandale est intervenu avec Volkswagen, on a expliqué que c'était de méchants ingénieurs qui avaient caché des petits logiciels espions et qu'on comprenait vraiment pas d'où ça venait. Là maintenant, le tableau est clair. Toute l'industrie automobile nous a menti. Vous qui êtes écologiste depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe à ce sujet? Qu'est-ce qu'on fait de ces millions de voitures qui ont des pièges anox défectueux qui circulent dans nos villes?
Oui, moi je voudrais prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui a été dit précédemment par Nathaniel Rich. Moi, il me semble que les lobbies qui interviennent contre le changement climatique, ils le font pour une raison très simple, c'est qu'ils ne souhaitent pas voir l'intervention de l'État dans l'économie. Donc, c'est des lobbies très libéraux dont l'idée fixe est de dire laissez-nous faire et tout va aller mieux parce que la main invisible du marché va très bien fonctionner. Donc je pense qu'il y a un enjeu extrêmement lourd. Et évidemment, en Europe, on ne fonctionne pas tout à fait dans les mêmes registres. Il y a un enjeu extrêmement lourd de désarmement de la force de l'État contre les entreprises qui se fait sur le motif que l'État est inefficace, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Moi, je soutiens évidemment l'idée que sur des questions comme le changement climatique, qui est un bien public, et notamment un bien public mondial, il faut que l'État, les États, soient avec une très forte capacité d'intervention. Donc dans le domaine de l'industrie automobile, comme dans d'autres domaines, il est vraiment essentiel. Je prends aussi par exemple la question de l'habitat. Il est absolument important que les États disposent à la fois de capacités d'imposer des normes et des règlements qui soient efficaces et d'autre part de force de police, entre guillemets, environnementale, qui soit également efficace. Ce que montre l'ensemble de ces scandales, c'est qu'on n'y est pas encore. Mais ce qui montre aussi, c'est la sensibilité de l'opinion, qui est de plus en plus épidermique sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'elle va légitimer maintenant des interventions beaucoup plus lourdes. Et c'est ça qu'il faut faire sans attendre.
Et sur la question du diesel, alors ?
Le débat sur le diesel, c'était de dire, c'est plutôt...
Mais c'est pas l'imparfait, c'est au présent le débat sur le diesel. Les voitures diesel, elles sont dans les villes, elles sont autour de nous.
Le débat sur le diesel, c'est en gros, plus généralement, le débat sur la sortie des fossiles des voitures, c'est un débat qui doit être pris sérieusement, comme vient de dire Monsieur Rich. Il faut intégrer à la fois les emplois qui sont en œuvre, il faut intégrer évidemment les morts et les maladies respiratoires, et donc il faut trouver des compromis suffisamment rapides.
Je suis pas sûr de vous comprendre, parce que les constructeurs automobiles, ils ont triché. Le problème, c'est pas de faire des lois, c'est que ces lois soient respectées. Aujourd'hui, on voit que ces lois ont été tournées en ridicule. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi n'y a-t-il pas une réaction plus forte des associations écologistes ? Vous en représentez une, Alain Grandjean.
Je pense qu'au fur et à mesure du temps, là, en ce moment, vous savez qu'il y a un recours contre l'État relatif au changement climatique. Je pense qu'il va y avoir des recours.
C'est pas une question de changement climatique, c'est une question de pollution.
Je continue. Et donc, il va y avoir forcément de plus en plus de tensions et de tentatives de recours, mais c'est une prévision, c'est pas une décision.
Nathaniel Rich, vous expliquez aussi, alors ça c'est un autre argument qui a été évoqué par, non pas les climato-sceptiques, mais des gens de bonne foi qui considéraient que le réchauffement climatique était certes une réalité, mais qu'on allait s'en sortir, et c'est notamment ce que vous avez nommé le syndrome Nirenberg. Alors il faut nous expliquer qui était William Nirenberg.
Well, Nirenberg was a member.
Nirenberg faisait partie de l'establishment scientifique gouvernemental dans les années 80 aux États-Unis. Il était encore très très fort ce groupe au sein du gouvernement. Vous savez, c'est un conte de fées de croire que les scientifiques seraient crus ou importants. Mais il était soutenu par l'Académie scientifique nationale, qui a passé en revue tout ce que l'on savait, qui a tenté de comprendre les ramifications, non seulement en termes de réchauffement climatique, mais aussi en termes de géopolitique. Et la conclusion, c'était que oui, il faudrait faire attention, mais il faudrait pas paniquer. Et c'est un moment fascinant parce que c'est le premier signe dans le marché qui était le conflit intergénérationnel. Il y a les scientifiques les plus âgés au sein du gouvernement avec une foi énorme dans le bon sens américain et sa capacité à résoudre les problèmes techniquement. Et les plus jeunes, Ralph Pomerantz, qui sont la génération du Vietnam et qui n'avaient plus confiance dans la prudence ou la capacité du gouvernement américain pour pouvoir se colter avec ces problèmes. Même s'ils étaient d'accord sur la science, il y avait une division générationnelle sur la réaction à avoir.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il est compliqué de faire de la politique au futur, puisque finalement, le réchauffement climatique, c'est cela qu'il demande au personnel politique, même si le futur est de plus en plus le présent ?
Malheureusement, nous sommes à un moment où le futur, c'est maintenant. Et les mots des activistes ne sont plus « je suis inquiet pour mes petits-enfants ». Mais non, c'est « votre inaction me tue, moi ». Votre inaction me vole mon avenir. C'est ce que l'on entend désormais de gens comme Ocasio-Cortez, qui est Greta Thunberg aussi. C'est quelque chose de personnel et d'émotionnel. Et je crois que ça a une puissance, un pouvoir politique.
Oui, les jeunes sont, très, sur ce registre-là aujourd'hui, la mobilisation européenne est très claire. C'est les jeunes nous disent, ou au moins jeunes, qu'ils n'ont pas fait le job et qu'on dit à ne pas le faire. Je voudrais insister sur un tout petit point. C'est qu'on est très, retardé et ralenti par l'idée religieuse que science et technique vont nous sauver. C'est pas science et technique qui vont nous sauver, c'est une politique très active et rapide.
On va d'ailleurs écouter Greta Thunberg. Elle s'exprime en anglais et je vais donc demander à Maître Zlotowski, ici présent, de nous la traduire. Allons-y.
Hier,
le monde regardait avec désespoir brûler Notre-Dame, ici à Paris.
Some buildings are more than just buildings.
Certains bâtiments sont plus que des bâtiments. Mais Notre-Dame, ça sera un signe. J'espère que ces fondations sont solides. J'espère que nos fondations sont encore plus solides. Mais je crains qu'elles ne le soient pas.
A fertile topsoil. Deforestation of our great forests.
La déforestation de nos forêts primaires, la pollution de l'air, la perte des insectes et de la vie sauvage, l'acidification de nos océans, tout cela est accéléré par une façon de vivre. Et c'est notre droit de lutter contre cela.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nathaniel Ridge? Est-ce que Greta Thunberg a un écho aux États-Unis? Que pense-t-on d'elle?
Bien, c'est le langage que l'on entend aujourd'hui. Vous pouvez l'entendre aux États-Unis, chez les militants aussi. Et on n'a pas entendu ce genre de langage jusqu'à présent. Je crois qu'il est facile de pousser de côté les jeunes sur le plan politique, mais quand on arrive à ce sujet-là, à ce problème-là, ils ont vécu moins de temps sur cette planète, mais ils vivront beaucoup plus avec ce problème que les générations précédentes. Donc, eux ont l'autorité morale nécessaire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Grandjean ?
Je pense que ce mouvement est très très utile et très important, parce qu'en démocratie, les gouvernements sont toujours à la remorque des mouvements d'opinion. Donc si, d'une part, nos dirigeants et d'autre part, les dirigeants d'entreprise comprennent bien où en sont les jeunes et que ce mouvement se généralise et s'amplifie, ils vont forcément être obligés de bouger. J'insiste un tout petit peu sur l'idée suivante, c'est qu'il ne s'agit pas juste que chacun d'entre nous fasse évoluer son comportement, et il est très important qu'on réduise notre consommation de viande, qu'on réduise notre consommation d'énergie, mais il est tout aussi important, même beaucoup plus important, que les États fassent évoluer les infrastructures, fassent des grands travaux, de sorte que...
Donnez-nous des exemples.
Eh bien, par exemple, dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments, il est important de faire des travaux très lourds pour que nos bâtiments, nos logements consomment beaucoup moins d'énergie. Aujourd'hui, il y a encore 4 millions de logements qui utilisent du pétrole. Il est très important que nos moyens de locomotion soient tels qu'on n'utilise plus de pétrole dans les années qui viennent. Il est très important que nous soyons capables de pouvoir utiliser des transports en commun, capables de pouvoir utiliser du vélo. Et je prends juste un exemple, qui est le vélo est très important. C'est faire plus de vélos dans les villes, c'est faire des travaux qui permettent de rendre le vélo non dangereux. C'est des travaux qu'il faut faire vite, maintenant, parce que sinon on n'arrivera jamais à rien. Et donc cette dynamique émotionnelle qui est créée par ce mouvement-là doit être immédiatement utilisée pour lancer ce plan Marshall qu'on appelle de nos voeux.
Un mot de conclusion, Nathaniel Ridge. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a perdu la Terre? C'est le titre de votre livre.
Je crois qu'il faut comprendre très clairement, c'est que les solutions techniques sont là, les arguments économiques sont forts, et il faut s'écarter de l'énergie fossile, aller vers les renouvelables. Ce qui manque, c'est la volonté politique. La question, c'est comment changer la politique, et je crois que ce mouvement a une chance pour pouvoir le faire.
Alain Grandjean, agir sans attendre, notre plan pour le climat, c'est aux éditions des Liens qui libèrent et perdre la terre. Une histoire de notre temps, c'est votre livre, Nathaniel Rich, publié aux éditions du Seuil. Je vous